L'intersyndicale de l'administration publique exige l'application de l'accord dit de Mboudi, tel que revu et approuvé par les deux parties suite à un protocole d'accord signé la semaine dernière. Ce nouveau barème prévoyait un salaire de 159 000 francs congolais pour le huissier et 10 fois plus pour le secrétaire général. Cependant, le ministre intérimaire de la fonction publique affirme qu'il n'a jamais été question d'un nouveau barème salarial. Quelle analyse faire de cette situation? Nos invités dans cette émission sont Florent Moulumba, directeur de cabinet du ministre de la fonction publique. Monsieur Moulumba, bonsoir.
Bonsoir.
Jean Bosco Pouna, porte-parole adjoint des intersyndicales de l'indépendant, voilà, de l'administration publique et secrétaire général du SINECAS. Monsieur Pouna, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Il va me rejoindre dans un tout petit moment. C'est Emmanuel Kabongo, analyste politique. Merci pour vos réactions qui sont déjà très nombreuses comme d'habitude. Anne-Marie Kazali de Matadio Bakongo. Les fonctionnaires qui sont mal pris devraient plutôt attendre un gouvernement investi pour traiter une question de cette importance. Je ne vois pas ce que ferait un ministre intérimaire dans ce dossier. Clark Moussoli, Mapendano, les Congolais doivent cesser de rêver tout le temps. Ils réclament le salaire avec barème de Mboudi. Combien de gouvernements se sont succédés sans en tenir compte? Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le syndicat de l'administration publique s'est réuni mardi dernier en assemblée générale sur la place dite Golgotha, la fonction publique ici à Kinshasa. Objectif, exiger du gouvernement l'application des accords dits de Mboudi, tels que revus et approuvés par les deux parties. En effet, trois jours seulement après le protocole d'accord signé entre le gouvernement et les syndicats de l'administration publique sur un nouveau barème salarial, la partie syndicale a fait savoir que le ministre du Budget, faisant office de celui de la fonction publique, refuse l'application de ces accords. Jean Bosco Pouna, porte-parole adjoint de la partie syndicale, rappelle le bien fondé de l'application de ces accords au micro de Paul Félicien Mangama.
Les institutions de la République, notamment le Parlement et le gouvernement, soient assez conséquentes pour pouvoir cette fois appliquer les barèmes qui est sorti de cette tractation. Et en fin de compte, nous sommes tombés tous d'accord. Un ministre, qui qu'il soit, ne peut pas venir balayer les conclusions de toute une commission. Pour une fois, il ne faudrait pas que nous puissions encore revivre les offres du barème de Mboudi qui n'était pas payé. Si le gouvernement se dédie, eh bien, nous allons initier des actions syndicales et ça sera malheureusement le discrédit du gouvernement qui sera mis en place.
Notez que le nouveau barème prévoit un salaire de 159 000 francs pour le huissier et 1 599 000 francs congolais pour le secrétaire général de l'administration publique. L'atelier sur la politique salariale organisée il y a quelques jours ici à Kinshasa entre le gouvernement et les syndicats de l'administration publique n'a pas sorti un nouveau barème salarial. Pour cause, cet atelier n'a pas tenu compte des contraintes budgétaires et n'a pas opéré des projections afin d'uniformiser les irrégularités et les disparités dans les primes des fonctionnaires de l'État. Réaction du ministre du Budget faisant office de celui de la fonction publique aux allégations des syndicalistes qui parlent du refus de l'application d'un nouveau barème salarial par le gouvernement. On écoute Jean-Baptiste Nsawa Kouderoua, ministre du Budget, au micro de Paul Félicien Angana.
Il y a un constat malheureux qu'il y a une fonction publique à deux vitesses. Il y a des services qui sont bénéficiaires des primes et d'autres pas. Il y a des services qui sont bénéficiaires des barèmes spéciaux et d'autres pas. C'est cette question que je tenais à faire qu'on puisse se régler d'abord. Il faut harmoniser le barème, il faut des primes et en sortir un barème qui soit unique, qui soit de référence, quitte à ce qu'on puisse moduler cela par des primes spécifiques selon qu'on est dans tel ou tel secteur. Mais ce travail-là n'a pas été fait.
Ce n'est pas un barème, c'était des propositions qui résultent de travail, des simulations qui ont été faites. Ce ne sont que des propositions qui ne sont pas validées à ce stade.
demander. Ce n'est pas un barème et donc il n'y a pas question de parler d'applicabilité au stade où nous sommes.
Voilà, commençons par le commencement, comme on dit, Jean-Bosco Pouna. Qu'est-ce que vous avez convenu avec le gouvernement concernant Mboudidi amélioré?
Oui, merci beaucoup pour la parole que vous nous accordez. Qu'est-ce que nous sommes convenus, les deux parties réunies? Eh bien, après les tractations, après toutes les discussions, nous nous sommes entendus pour que cette fois, le gouvernement puisse payer 159 000 francs aux huissiers et 1 590 000 francs au secrétaire général. Et la commission ne s'est pas simplement appesantie sur cette question. La commission est allée plus loin pour essayer de travailler sur les avantages sociaux contraignants. Vous savez que ces avantages, notamment les logements, les transports, n'avaient jamais été payés. Ça fait plus de 20 ans. Et donc, nous avons dit qu'il faudrait bien faire un travail complet pour présenter un barème, une situation de manière complète au gouvernement. Et c'est le travail qu'on nous avait demandé. N'oubliez pas que depuis 2010, eh bien, cette année-là a été placée sous le signe du social. 2010 est passé sans que les agents et fonctionnaires de l'État aient bénéficié d'un salaire acceptable. Eh bien, nous sommes en 2012. Il est convenable, au regard du discours du chef de l'État, que nous puissions bénéficier cette fois-ci d'un barème qui puisse nous permettre de faire le travail, de rendre cette administration publique compétitive. Et je crois que c'est le travail que nous avons fait et ce travail avait été initié par le gouvernement. Mais si vous voulez bien, parce que nous venons de suivre le ministre du budget, le ministre ad intérim de la fonction publique, eh bien, son excellence nous surprend dans la mesure où, lorsque nous lisons les objectifs contenus dans les discours d'ouverture que lui-même avait prononcé, je lis un des objectifs, je lis deux. L'atelier est organisé justement pour dégager les grandes lignes d'une politique salariale cohérente à soumettre au gouvernement. Ça, c'est un premier détail que nous devrons noter. Donc, les barèmes que nous avons trouvés doivent être soumis au gouvernement. Et lui, en tant que représentant du gouvernement qui avait été mandaté par rapport à cela, eh bien, il doit soumettre ce barème au niveau du gouvernement. C'est ce que dit son mot d'ouverture, c'est son discours qu'il a prononcé. Le deuxième objectif, c'est que l'atelier devrait esquisser un projet de barème général de référence cohérente, représentant une structure plus logique et plus motivante applicable à court terme. Voilà les discours du ministre et nous pensons qu'au niveau de la commission, étant donné que tous les experts du gouvernement étaient représentés, du moins ceux qui s'occupent de la matière en question, eh bien, il y avait la représentation du ministère du budget, des finances, les conseillers du chef de l'État et même de la primature, nous avons pensé que cette commission était assez crédible pour faire des propositions qui seront appliquées par le gouvernement parce que les agents et fonctionnaires de l'État ont tant souffert. Voilà donc l'esprit dans lequel nous avons travaillé. Et donc, pour nous, l'entendement, c'est que le ministre de la fonction publique, AI, devrait transmettre les rapports, les conclusions de notre atelier auprès du gouvernement, auprès du chef de l'État, pour pouvoir conformer les discours du chef de l'État par rapport à cette réalité. Parce que le discours dit bien que cette année, c'est l'année du social. Donc, nous pensons, à notre avis, ce deuxième palier amélioré, le gouvernement, s'il veut, s'il y a une volonté politique, en tout cas, il va devoir le payer. Et c'est bien dit que c'est à court terme.
Alors, Jean-Bosco Pouna, il y a une réaction que j'ai lue dans le sommaire, je vais la reprendre. Anne-Marie Kazadi de Matadio Bakongo, les fonctionnaires qui sont mal pris devraient plutôt attendre un gouvernement investi pour traiter une question de cette importance. Je ne vois pas ce que ferait un ministre intérimaire dans ce dossier.
Non, mais nous ne jugeons pas les choses de cette manière-là. Le ministre qui est venu ouvrir les travaux, c'est le ministre du gouvernement. Il est assez responsable et nous ne pouvons pas ne pas croire au travail de l'État. L'État continue, quelle que soit la position de notre gouvernement actuellement, mais nous savons que d'ici là, il y aura un gouvernement qui sera tout à fait bien investi, qui va s'occuper de la question. Et il est clairement connu des agents fonctionnaires de l'État que le travail qui a été fait par une commission technique
technique et ce travail doit être entériné par le gouvernement qui va venir demain. Donc pour nous, nous ne considérons pas que le ministre qui a travaillé avec nous n'avait pas tout son pouvoir. Nous pensons qu'il était investi de tous les pouvoirs pour pouvoir conduire la volonté du gouvernement par rapport à cette question. Maintenant, nous avons les barèmes. Bon, il faut absolument transmettre ces barèmes à tous les gouvernements pour que le gouvernement soit conséquent, afin qu'il puisse appliquer les barèmes. Parce que nous continuons à dire que les agents de l'État, mais qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce pays? Il faut absolument que les choses changent. Nous donnons 159 000 francs aux huissiers. Hier, il avait 50 000 francs. Vous voyez comment ils travaillent, c'est dans quelles conditions, quel est l'état de notre administration publique en laissant l'agent de l'État dans cette situation. Les standards internationaux de l'OIT donnent 1 000 dollars aux huissiers. Mais regardez un peu le fossé. Donc, je crois qu'avec un minimum de volonté politique, avec la TVA qui arrive, avec la maîtrise des effectifs qu'on a déjà amorcé, nous pensons que le gouvernement, en tout cas si il se prend convenablement, il est en mesure de payer ses barèmes.
Je donne la parole tout à l'heure à Florent Moulumba, mais je brûle l'envie de vous poser cette question, Jean Bosco. On a Mboudi dans sa forme initiale, 10 ans après, n'a pas été payé, et c'est dans sa forme améliorée où vous pensez que ça le sera.
Oui, lorsque nous disons deuxième palier amélioré, vous savez que le troisième palier donne 208 dollars au huissier. Et étant donné que le gouvernement, avec ses experts, nous ont amené 4 propositions. 4 simulations baréniques. C'est le gouvernement qui amène les propositions. Donc nous ne pouvons pas croire un seul instant que le gouvernement va nous y prendre. On doit cesser de se moquer des agents fonctionnaires de l'État. Il y avait 4 simulations baréniques et nous tous nous sommes mis d'accord sur la simulation de 159 000 francs congolais. Et donc c'est 139 dollars qui est le deuxième palier, mais amélioré.
Merci. Florent Moulumba, vous êtes directeur de cabinet du ministre de la Fonction publique. Quelle explication vous pouvez donner dans ce cas?
Merci d'abord pour l'invitation à cette émission. Je viens donc essayer d'échanger avec vous, avec les auditeurs, mais aussi avec le partenaire syndicaliste M. Jean Bosco. Dans un premier temps, je voudrais réaffirmer ce que son Excellence Monsieur le ministre a dit dans l'interview qu'il a accordé à la presse immédiatement après la clôture de l'atelier. Également, vous avez fait passer un extrait. C'est cela qui est la réalité dans l'entendement du ministère de la Fonction publique. Je voudrais faire remarquer que une chose, c'est définir la politique salariale, et c'est ça qui était l'objectif principal de l'atelier. Tandis que la question du barème n'est qu'un élément parmi tant d'autres objectifs de cet atelier. Et ça devait venir d'ailleurs en exécution d'une politique conçue. Et la politique implique une vision, une conception. S'il faut rentrer dans le souci de l'organisateur, il faut considérer que la fonction publique aujourd'hui est dans une réforme. Nous sommes en train de vivre un processus de réforme de l'administration publique qui est une réforme intégrale. Et il a été souhaité, disons, à la suite du diagnostic qui a été fait de notre administration, il a été relevé un certain nombre de maux dont souffre notre administration. Et on a défini les grands axes des actions qui doivent, conduire à cette réforme. Et parmi ces grands axes, il y a ce qu'on appelait la revalorisation des ressources humaines de l'administration publique. Et cette revalorisation touche à plusieurs aspects. Vous avez les conditions de travail. Il n'y a pas que le salaire qui fait problème pour les fonctionnaires. Vous avez les conditions mêmes de travail. On ne peut pas admettre qu'il y ait des fonctionnaires qui travaillent et qui sont dans des bureaux qui ne sont pas confortables, si on peut utiliser ce terme. On ne peut pas non plus accepter qu'il y ait des fonctionnaires aujourd'hui où nous parlons de la technologie, de communication, on utilise l'Internet, on utilise l'ordinateur, etc. Vous avez encore des services qui utilisent la petite machine à écrire et parfois avec des touches qui ne fonctionnent plus. Vous pouvez trouver dans certains services de l'administration des agents assis à même le sol, ça existe. Et ça, c'est ce qui concerne l'environnement du travail des fonctionnaires. En dehors de cet aspect environnemental, vous avez la préoccupation sur le renforcement des capacités des agents et fonctionnaires. Ils doivent être formés, ils doivent être mis à niveau pour pouvoir faire face aux exigences de la technologie et à l'évolution de la science aujourd'hui. En dehors de ça, vous avez, pour parler des questions de la question de salaire, vous avez aujourd'hui dans l'administration publique, le ministre de la fonction publique l'a dit, vous avez des ministères où l'on paye une prime aux agents. Et vous avez des ministères où on ne paye pas de prime aux agents. Et quand vous prenez les ministères où les primes sont payées, parfois il y a des disparités. Vous pouvez trouver dans un ministère, pour un même grade, un agent qui occupe plus qu'un autre du même grade, qui occupe pratiquement la même fonction dans un autre ministère. Donc il y a tout ce désordre qui existe et qui fait que la manière dont le salaire est payé aujourd'hui, la rémunération, pose problème. Et il a été souhaité que l'on essaie de voir toutes ces primes qui sont données. Vous savez, lorsque un agent a travaillé, à la fin d'une certaine période, on considère qu'il a rendu service et qu'il peut aller se reposer. On appelle ça la mise à la retraite. Et les agents n'acceptent pas d'aller à la retraite parce qu'ils savent qu'après la retraite, ce qu'il va toucher est de très loin inférieur à ce qu'il avait pendant qu'il travaillait. Et la particularité, c'est quoi? C'est que le salaire aujourd'hui, il est inférieur à la prime que les agents touchent. Et quand vous envoyez un agent à la retraite, il est là pour la prime parce qu'il est lié à la fonction, il est lié à sa technicité. Et quand il part à la retraite, les indemnités sont calculées sur base du salaire réel. Donc il est question de voir aussi comment récupérer toutes ces primes pour renforcer d'abord le salaire lui-même et permettre ainsi à l'agent qui va à la retraite de se retrouver avec des indemnités convenables. Donc l'objectif de l'atelier n'a pas été de concevoir essentiellement un barème, mais de définir la politique salariale. Donc, il y a eu une déviation, et les syndicalistes n'ont pas été invités à cet atelier en tant que syndicalistes pour venir faire des réclamations. Ils ont été invités comme fonctionnaires, experts, pour réfléchir dans le cadre d'une réforme. Parce que généralement, il est arrivé qu'on a fait recours à des cabinets externes pour mener des études et au fil des conclusions. Mais le ministre s'est dit non, nous avons déjà deux études qui ont été menées, nous ne pouvons pas arriver à valider ce rapport avant qu'on en ait discuté avec les fonctionnaires eux-mêmes. Et c'était donc autour de ça que la discussion devait se faire pour arriver à la proposition d'une politique salariale revisée.
Donc on sent là qu'il y avait, chaque parti est venu avec ses objectifs propres à cet atelier. Apparemment, il n'y avait pas une forme de mise en commun des objectifs à Florent Moulumba.
Nous devons regretter que cela soit ainsi, parce que bon, je partage avec vous la considération. C'est-à-dire, le malheur c'est quoi? Les amis syndicalistes se mettent en tête qu'ils sont syndicalistes, et donc automatiquement voué à la réclamation. Même quand vous invitez le syndicaliste en tant que fonctionnaire pour réfléchir avec vous, lui vient déjà avec un agenda. C'est un peu ça qui fait problème. Je pense qu'il aurait fallu dès le départ qu'il y ait une discussion pour arriver à renforcer un peu la compréhension, clarifier les choses. Peut-être qu'il y a des erreurs de cette manière-là, c'est possible, mais il y a eu des violations.
Alors, en attendant de donner la parole à Emmanuel Kabongo qui vient de faire son entrée dans ce studio, Jean Bosco Pouna, comment vous réagissez? Finalement, vous aviez des objectifs divergents en participant à cet atelier.
Oui, moi je partage certains points de vue émis par les directeurs, mais j'aimerais simplement rappeler ici que nous comprenons bien ce que c'est qu'une politique salariale. Mais on doit savoir que l'élément essentiel de cette politique salariale, eh bien, c'est les salaires. Donc, les travaux n'ont pas commencé au mois de mars. Nous avons commencé les travaux depuis janvier à Fadenhaus. Nous avons été butés à une difficulté, c'est cette difficulté à laquelle nous faisons face aujourd'hui. Mais finalement, le gouvernement s'est dit non, il faut poursuivre les travaux. Et c'est pourquoi on a convoqué l'atelier de mars. Et nous sommes allés là-bas, nous avons fait le travail. Alors, lorsque le directeur parle, par exemple, des disparités des primes, mais il a tout à fait raison. Mais c'est le gouvernement qui endosse la responsabilité. Les dysfonctionnements regrettables que nous remarquons, Macron, mais c'est le gouvernement lui-même. Alors, lorsque le gouvernement veut niveler les primes, nous avons là un barème contraignant. C'est dans l'application maintenant que le gouvernement, avec tous les experts du gouvernement, ils vont devoir déduire, ils vont devoir niveler les primes pour pouvoir donner les barèmes qui ont été acceptés de commun accord. Donc, je crois que ça nous détonne un peu, parce que lorsque nous avons commencé les travaux, il était bien entendu que les barèmes qui sortiront, les travaux qui sortiront, les conclusions qui sortiront de cet atelier seront soumises au gouvernement. Est-ce que nous attendons qu'on prenne les conclusions, qu'on les soumette au gouvernement, c'est au gouvernement de nous dire que nous sommes en train de rêver, que 159 000, c'est trop, c'est beaucoup d'argent qu'on doit donner à l'agent et fonctionnaire de l'État. Ça, c'est le prix des agents et fonctionnaires de l'État. Que le ministre amène les conclusions au gouvernement et que le gouvernement les rejette.
Réaction Florent Moulumba. Décidément, vous ne mettez toujours pas sur la même longueur d'onde.
Oui, mais je dis que si les syndicalistes ne peuvent pas comprendre qu'il y a des moments où on peut les inviter en experts, et non pas en syndicalistes, et non pas en contestataires, et non pas en qualité de personnes qui viennent avec des réclamations, mais qui viennent réfléchir, si on peut arriver à faire la distinction entre ces deux considérations, je crois que le compte serait réglé.
Voilà, Emmanuel Kabongo, vous êtes analyste politique, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons essayé d'évoluer dans ce débat. Finalement, Mboudi, ça fait près de 10 ans que ce n'est pas payé. Le ministre intérimaire de la fonction publique a parlé d'une fonction publique à double vitesse. Comment vous analysez cet aspect?
Merci beaucoup pour l'invitation et je voudrais saluer mon ami Jean Bosco Founa, saluer le directeur de cabinet Florent Moulumba. Ceci pour dire que l'histoire du développement des pays, c'est-à-dire l'histoire des pays qui améliorent les conditions de vie de leur peuple, qui améliorent la qualité de vie de leur peuple, est sans équivoque là-dessus, c'est-à-dire est univoque. Elle démontre que ces pays ont pu accéder à un changement qualitatif du niveau de vie, de la qualité de vie de leurs citoyens, en se dotant d'une administration forte et performante. Et je crois que quand on parle d'une administration, ça veut dire qu'on parle d'un ensemble de personnes, d'un ensemble de structures qui sont dotées, qui travaillent pour, n'est-ce pas, le développement. Et l'administration, dans ce sens, est comme la mémoire d'un peuple, est comme la mémoire de, n'est-ce pas, la mémoire de ce qu'on peut appeler le développement. C'est comme c'est l'administration qui détient ce qu'on appelle la puissance, la volonté de puissance d'un peuple. Et dans tous ces pays, quand vous visitez tous les pays africains tout autour de nous, vous trouverez par exemple que les gens sont heureux, par exemple, de travailler dans une administration au Congo-Brazza, de travailler dans une administration au Burundi, au Rwanda, partout, parce qu'ils se disent que l'administration est la colonne vertébrale de tout développement et que ces pays y mettent des moyens. Des moyens signifient que l'administration, les fonctionnaires sont payés relativement bien, et que les structures d'administration sont des structures de mémoire, sont des structures, n'est-ce pas, d'avenir, sont toujours bien tenues. Alors, moi, la première remarque que j'ai faite, c'est que dans des pays comme le Congo, où nous partons dans des marécages, où les fonctionnaires sont réduits, il n'y a qu'un premier ministre, Lumumba, qui avait augmenté les salaires de fonctionnaires à 33%, hein, et ça, c'est, on l'oublie pour pas le dire. Et nous partageons aujourd'hui, depuis Lumumba, nous partageons aujourd'hui dans une administration qui est abandonnée à elle-même, structurellement parlant, de façon, même techniquement, on se dit, il n'y a pas une volonté réelle du pouvoir régnant de développer le Congo. Et ça, c'est une remarque tout à fait fondamentale, c'est, on ne peut pas penser développer un pays sans qu'il y ait État, c'est l'histoire du développement qui le démontre. Les fonctionnaires font partie de ce qu'on appelle les dépenses de souveraineté. Peut-être qu'aujourd'hui au Congo, on ne le dit pas suffisamment, les dépenses de l'armée, de la police, mais même des fonctionnaires. C'est-à-dire qu'on peut, aujourd'hui, quand je vois notre pays, c'est pas tant pour l'indépendance, en train de se débattre, non seulement pour donner à un fonctionnaire, parce que quand on voit les 150 000 francs, c'est pratiquement l'équivalent de $150, on en discute, ça fait 9 ans, ça doit faire 10 ans, on se dit, là, il y a une volonté réelle du pouvoir régnant en place de ne pas développer le Congo. D'autant plus que le secteur de l'administration est le secteur qui engage le plus, qui fait pratiquement ce que nous appelons la force active, les centaines de force active congolaise, est faite par l'administration publique. Et si cette administration, les gens n'ont pas de moyens, c'est-à-dire n'ont pas de moyens pour consommer, pour acheter, pour vivre, ça signifie que là, c'est tout à fait ce qu'on peut appeler, on est en train de généraliser la misère, pas la pauvreté, la misère. Donc moi j'ai dit aujourd'hui, c'est-à-dire que je parle au niveau des principes, je n'ai pas suivi le débat, mais j'ai dit que ça fait aujourd'hui du prêtre près de 10 ans qu'il a dit tout à l'heure, que Mboudi a été signé et que Mboudi n'est pas ce que les Congolais dépensent le mieux. Donc les dépenses congolaises sont faites de ces choses, et j'ai dit que en ne payant pas, en n'accédant pas à Mboudi, le pouvoir régnant démontre sa volonté de ne pas combattre profondément la pauvreté au Congo, de ne pas faire accéder les pays au développement. Et aujourd'hui, que nous en discutons, moi je dis que la discussion se passe à un très bon moment parce que nous sommes dans un gouvernement intérimaire et qu'il y aura un gouvernement prochainement qui va prendre en charge tout ça. Et comme le président Kabila a déclaré qu'il va devoir considérer le social comme le motif de son gouvernement, de sa mandature actuelle, j'ai dit que c'est une occasion pour les syndicalistes aujourd'hui de faire suffisamment de pression pour qu'on accède à cette demande. Et que, j'ai dit toujours pour moi, je l'ai vu à plusieurs reprises pour lui dire qu'on ne peut pas avoir dans un pays comme le Congo des syndicats, les fonctionnaires qui sont les plus nombreux, la force active, les plus nombreux des gens qui peuvent accéder au développement, qui peuvent accéder à la rémunération, et ne pas être capable d'organiser, n'est-ce pas, la mise d'accéder. Ça signifie que le meilleur côté au syndicaliste, il démontre une capacité à s'organiser.
Emmanuel Kabongo, il y a quelqu'un qui a dit en RDC, les fonctionnaires font semblant de travailler et l'État fait semblant de les payer. Florent Moulumba a parlé de la réforme de la fonction publique. Quels sont les préalables, d'après vous, pour que cette réforme puisse réussir?
D'une façon ou d'une autre, celui qui engage les fonctionnaires, c'est l'État. Donc, il dépose un canevas, n'est-ce pas, de performance. Donc, aujourd'hui, nous nous rendons compte que l'État, quand il tient ce discours pour maintenir le plus grand nombre de personnes, c'est-à-dire les fonctionnaires de l'État. Parce que moi, je parle des fonctionnaires de l'État, je dis, et les fonctionnaires, et les soldats, et les policiers, et toute l'administration, en fait, font partie de cette catégorie-là. Je dis, l'État, quand il tient ce discours, c'est juste pour le maintenir dans ce qu'on appelle la pauvreté, pour gérer la misère des pauvres Congolais. Parce qu'en réalité, l'État est capable aujourd'hui. Je crois que c'est un faux discours. Nous avons le moyen technique, le moyen technologique de dire, voilà, qui n'est pas fonctionné, qui ne l'est pas.
Mais ça traîne, ça prend beaucoup de temps.
Ça prend du temps parce que l'État considère justement un des artifices, des subterfuges qu'utilise l'État congolais pour ne pas accéder, n'est-ce pas, à ce que le fonctionnaire qui sont la mémoire d'une nation. Parce qu'aujourd'hui, peut-être les gens, quand ils voient les fonctionnaires dans la rue, en train de. Mais ces fonctionnaires, parce qu'ils ne sont pas payés, ou ils sont mal payés, qu'est-ce qu'ils font? Ils détruisent les archives. Ils font de la corruption, n'est-ce pas, journalière, une façon de vivre. Donc, même si aujourd'hui, moi j'ai discuté avec quelqu'un qui disait que la corruption au Congo est devenue, n'est-ce pas, une question où tout le monde y est dedans. J'ai dit oui, parce que la plus grande marge de personnes qui doivent accéder aux rémunérations, aux salaires, n'y accèdent pas, ils trafiquent. Il discute de toute la documentation. Et c'est l'État qui gère, l'État a tout le moyen de connaître que tous les fonctionnaires aujourd'hui pratiquent sur n'importe quel document. Donc là, c'est l'État non seulement qui gère la corruption, qui gère la misère du peuple. Et là, j'ai dit non. Aujourd'hui, j'ai dit à Pona, nous sommes là ensemble, j'ai dit, vous devez faire de cet état des choses. Vous devez faire de l'accès à cette salaire à Mboudi de 150 000 francs, qui voit la réalité que nous en sommes 150 dollars, comment n'est-ce pas, et un signal que vous donnez au président Kabila qui va prendre le pouvoir, qui a pris le pouvoir, qui est là, et pour dire parce qu'il sait qu'il va s'investir dans le social, qu'il puisse à partir de là, démontrer que réellement, il va s'investir dans le pouvoir. Il doit se prendre
voilà.
Pour donner le moyen qu'il faut.
Est-ce que Laurent Moulumba, vous intervenez après cette réaction qui nous vient de Bukavu, suivez-vous pour vous.
Robert Kabanda Lumana, je suis à Bukavu. Pourquoi les salaires des ministres nationaux et provinciaux, des députés nationaux et provinciaux, des gouverneurs de province n'ont jamais fait l'objet de discussions interminables portées à la connaissance du public et des promesses farassineuses et ceux des fonctionnaires de l'État des médecins, des enseignants, des militaires et des policiers.
Réaction Florent Moulumba.
Ben, je risque de me répéter et j'associe ce que vient de dire le correspondant de tout à l'heure avec ce que disait tout à l'heure M. Manuel Kabongo. Le constat, justement, est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est tout à fait normal. Il est du devoir et du fonctionnaire et de l'employeur de constater que, à un niveau donné, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce constat a été fait, et c'est ce constat qui a conduit à ce qu'on a appelé la réforme de l'administration publique. Et donc, la réforme devient comme la voie par laquelle nous devons arriver à améliorer, justement.
Oui, mais dans le cadre de cette réforme,
et du fonctionnaire et de l'employeur, pour qu'on arrive justement à juguler le mal et y apporter ensemble il y a la merde qui convient.
Mais je parlais tout à l'heure, je posais la question à Emmanuel Kabongo sur la maîtrise des effectifs. Il y a le recensement biométrique des fonctionnaires qui a commencé, mais qui patauge. Quel est le résultat à ce jour?
Le résultat à ce jour est que cette province sur 11...
Ça a quand même trop mis, ça fait très longtemps qu'on est à cette province.
Et nous avons ajouté, je pense avant la fin de l'année, nous avons ajouté deux provinces sur lesquelles on a fait un recensement particulier dans le cadre de la décentralisation pour pouvoir maîtriser les effectifs qui vont être transférés aux provinces. On a commencé avec la province du Katanga, on l'a fait avec la province du Sud-Kivu, et on est en train de le faire avec la province du Bandundu.
Donc, il faut attendre presque 2016 pour être sûr que tout sera fin prêt.
Mais vous savez, on dit bien la pilule est amère, mais les pilules, il faut la consommer. Il y a des contraintes du temps, il y a des contraintes de moyens, il y a des contraintes. Donc, à tout ça, il faut qu'on arrive à faire face. Il faut qu'on accepte que les exigences du processus soient assumées par tous. Au cas contraire, ce sont de pots de banane, justement, que le fonctionnaire lui-même lance sur son propre chemin. Et c'est ça qu'on a dit tout à l'heure, que c'est le fonctionnaire qui détruisait l'administration. Donc, d'un côté, vous soufflez le souffle, et de l'autre, vous soufflez le froid. C'est un peu ce qui est contradictoire. Et l'État est confronté à ces réalités, il faut les gérer.
Je vais préciser de Manono Katanga, la réponse du ministre du Budget laisse croire aux Congolais que même le gouvernement attendu, investi, ne trouvera aucune solution au problème du peuple. C'est un désespoir total. Réaction Florent Kabongo.
Pardon. Je crois que le ministre intérimaire de la fonction publique l'a si bien dit, et M. Jean Bosco aussi l'a dit. Il faut considérer que le gouvernement actuel, c'est un gouvernement intérimaire, qui en réalité ne peut pas prendre certaines mesures. Il y a des limites. Parce qu'il ne faut pas que ce gouvernement ait pris un nombre donné d'engagements qui ne seront pas nécessairement endossables par le gouvernement qui vient. C'est ainsi que Jean Bosco disait tout à l'heure que le souhait était de pouvoir présenter les données du travail réalisé pour que le gouvernement qui va venir l'endosse. Mais il faudra que ça ne soit pas quelque chose d'aléatoire que l'on présente également. Parce que moi, je m'interroge. Aujourd'hui, on va donner 135 ou
159 francs
à un huissier. Quel est le problème réel qui va être résolu par le huissier avec les 159 000? En réalité, les 159 000 sont même inférieurs aux besoins réels d'un huissier aujourd'hui. Donc, le problème n'est pas qu'on dise qu'on va donner 159 000. Mais il faut qu'on sache, on va donner ces 150 000 sur quelle base? Qu'est-ce qui a conduit à la définition de ces 159 000? Quel est le problème qu'on veut résoudre réellement? Et en ce moment-là, on aurait compris les choses. Et c'est pourquoi on a parlé de la définition d'une politique salariale qui tienne compte de plusieurs paramètres et que lorsqu'on va l'appliquer, que ce soit une référence.
Merci Florent Moulumba. Jean-Bosco Pouna, vous intervenez également après cette réaction qui nous vient de Guémena à l'Équateur pour vous.
Moïse Chimimon de Guémena dans la province de l'Équateur. Et le gouvernement fait prédicter les Congolais parce que un mois de travail est payé après le 30 en on a toujours on est de 30 jours. Alors l'application du semaine d'Alain reste un sérieux problème à plus forte raison que le nouveau barème.
Réaction.
Oui, bon, je crois que en tant qu'agent, en tant qu'enseignant, en tant que syndicaliste, nous devons continuer à faire notre travail. Parce que nous ne pouvons pas croire que tous les gouvernements vont se ressembler. Nous pensons que le gouvernement qui viendra demain, ça sera un gouvernement qui va apporter toutes les aspirations de la population. On a parlé ici de la réforme, mais cette réforme, nous avons l'impression que c'est devenu presque un fonds de commerce. On en parle chaque année que finalement, lorsqu'on interroge les conclusions, eh bien, nous n'avons rien. Le bilan est toujours mitigé ou même négatif. Aujourd'hui, aucun ministre de la fonction publique n'a la maîtrise des effectifs. Depuis que nous sommes là, aucun ministre de la fonction publique n'a maîtrisé des effectifs. Au moment où nous savons que, bon, il y a la réforme, il y a les partenaires qui apportent leurs moyens. Donc, vous comprenez que c'est toujours l'agent et fonctionnaire de l'État qui est roulé. Chaque ministre qui vient, eh bien, il vient avec un cortège de recrutement. Alors, comment voulez-vous que, au même moment, vous êtes en train de procéder à la réforme pour voir qui travaille, qui ne travaille pas, mais en même temps, on est en train d'engager. Ça, c'est un véritable problème. Et nous pensons, au niveau du banc syndical, que le moment est propice, et d'ailleurs, tous les experts du gouvernement avec lesquels on a travaillé, on a jugé le moment propice dans la mesure où le Parlement n'est pas encore installé, n'est pas encore mis en place de manière définitive. Donc, il y aura le budget qui sera discuté par l'autorité budgétaire le moment venu. Il faudrait déjà que nous ayons cette proposition de tous les deux parties, toutes les deux parties. Donc, nous pensons que vraiment ce que nous avons fait arrive au bon moment, le budget n'est pas encore en discussion, c'est le moment de pouvoir prendre les conclusions, de les présenter au gouvernement pour que finalement ça soit endossé auprès de l'autorité budgétaire afin que les agents et fonctionnaires de l'État soient payés. Figurez-vous, si on pouvait arriver à payer ces barèmes, si je prends par exemple un attaché de bureau de première classe, et il pourrait avoir un minimum de 760 000 francs. Et là, je ne mets pas les avantages. Donc, vous comprenez déjà avec le système de l'enseignement, vous savez que l'enseignement est en crise, hein, ce sont les ménages pauvres qui prennent en charge les parents. Mais si on peut donner à un licencié 700 000 francs, c'est minime, c'est vrai, mais il peut être à la hauteur de la tâche et nous pouvons réqualifier notre enseignement. Nous ne pouvons pas croire que notre gouvernement soit à tout moment plaintif. Les problèmes de moyens, c'est vrai, ils se posent, mais en tout cas, nous, nous sommes conséquents. Nous comprenons les difficultés du gouvernement, mais il faut absolument que le gouvernement également comprenne la misère dans laquelle vivent l'ensemble des agents et fonctionnaires de l'État.
Emmanuel Kabongo, je vais vous poser deux petites questions un peu dures. La première, est-ce que les fonctionnaires ont été, n'ont-ils pas été naïfs en considérant qu'ils auraient finalement Tombougui? Deuxième question, le gouvernement n'a-t-il pas trompé les fonctionnaires?
Merci beaucoup pour ces deux petites questions. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que j'ai Founa, que je connais personnellement, je l'ai vu à plusieurs reprises pour lui dire que monsieur, vous avez le plus grand nombre, n'est-ce pas, d'agents qui il faut vous organiser. Parce qu'en fait, on ne peut pas demander à un gouvernement, à un État, de donner des salaires aux gens parce que le premier ministre, le ministre s'est réveillé, était de très bonne humeur et dit non, je donne. Ça n'a jamais existé. Dans tous les pays du monde, les salaires, les gens se battent pour ça. Et qu'il faut, du côté de nos amis de l'administration, des fonctionnaires, une véritable organisation. J'avais même dit à Founa il y a quelques années que Founa, vous devez faire un parti politique. C'est-à-dire vous devez faire un parti politique pour avoir des députés, pour avoir des ministres qui prendront ces problèmes à cœur. Et aujourd'hui, nous nous trouvons devant Founa il dit que le problème est plaintif, mais c'est lui qui est plaintif. Puisque avoir 2 ou 3 millions de personnes, 1 million, je ne sais pas moi, 500 000, et ne pas être en mesure de s'organiser pour bloquer le fonctionnement d'une institution qui vous réduit n'est-ce pas, les moyens de vivre, ça signifie que là, il y a une incapacité organisationnelle en tant que, n'est-ce pas, entité. Et de l'autre côté, donc, il n'y a pas pour moi une naïveté. Moi, je dis, il y a absence d'organisation au niveau de nos syndicats. Il faut qu'ils améliorent leurs capacités. Nous avons un gouvernement nuisible. Nous avons un État nuisible. Bon, écoutez, vous devez répondre à ça. C'est pour ça que moi, je dis aujourd'hui, les Congolais doivent pouvoir être en mesure de s'organiser pour réclamer les droits. Pour réclamer le droit à la vie, ce sont des droits qui ne se donnent pas, qu'on se bat pour. Donc, de l'autre côté, le gouvernement n'a pas trompé. Le gouvernement a toujours joué ce même rôle.
C'est-à-dire de faire des promesses et de ne pas les donner.
Non, c'est-à-dire de considérer que le développement du Congo n'est pas une priorité. On l'a vu. Parce que moi, je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai annoncé, j'ai dit, on ne peut pas faire un développement dans un pays s'il n'y a pas une administration performante. Une administration performante, c'est une pays que vous avez deux ans de personnes humaines, vous avez des structures, et toutes ces structures fonctionnent comme mémoire, comme exécution pour le développement. Et les Congolais aujourd'hui, et je l'ai dit tout à l'heure, dans tous les pays qui nous entourent, malgré que tous les pays ne sont pas mieux lancés que nous, mais dans leur administration, tout le monde au Congo Brazzaville, tout le monde au Burundi, au Rwanda, voudrait travailler dans une administration qui signifie que c'est un endroit qui vous sécurise et qui vous représente l'État.
Merci. Il nous reste moins de 5 minutes pour terminer l'émission. Il y a des auditeurs qui continuent à nous écrire. Je suis quasi de Goma en Nord-Kivu. Le gouvernement a le plein devoir de respecter ses engagements sans aucune condition, car c'est avec des promesses irréalisables et gardées dans des tiroirs que notre pays, la RD, peut facilement perdre la main d'œuvre qualifiée. Laurent de Baraka, Fizi au Sud Kivu, pourquoi le problème salarial n'a jamais trouvé des solutions en RDC? Les ministres étant mieux payés, pourquoi ne peuvent-ils pas songer aux autres fonctionnaires? Le salaire d'un ministre peut payer combien d'enseignants? Laurent Moulumba, il nous faut déjà conclure. En guise de conclusion, qu'est-ce que les auditeurs et les internautes qui vous suivent en ce moment peuvent retenir de cette question de Mboudi?
Je dirais ceci. Mon constat est que la souffrance aujourd'hui, que l'on reconnaît dans le chef du fonctionnaire de l'agent de l'État, est une réalité. Et c'est parce que, justement, le pouvoir public a pris conscience de la chose que des occasions comme l'atelier qui a été organisé ici a été initié. C'est pour justement qu'on réfléchisse en profondeur sur la question et qu'on arrive à trouver des réponses conséquentes. L'atelier n'a pas été une nécessité pour l'augmentation du salaire. L'atelier a été un moment de réflexion pour la remise en cause de ce qui ne va pas et la conception d'une vision claire, précise, qui soit justement une réponse à la préoccupation du fonctionnaire aujourd'hui. Donc, je crois qu'il reste fondé que le barème tel qu'il a été proposé ne constitue pas, à mon avis, une solution au problème. Mais il faudra, comme le ministre l'a dit, que la réflexion se fasse en profondeur pour, ressortir les problèmes fondamentaux et faire des propositions de remèdes conséquents que alors le gouvernement va pouvoir endosser. Donc, ça n'a pas été un problème de l'augmentation du salaire, mais un problème de réflexion en profondeur.
Merci.
Donc, je voudrais que l'opinion comprenne une fois pour toutes que le barème qui a été présenté n'est pas, à ce moment-ci, un barème
Merci.
Décidé.
Merci. Et on retiendra également que la réforme de la fonction publique a déjà été amortée. Jean Bosco Pouna, en guise de conclusion, qu'est-ce que les auditeurs et internautes qui vous suivent peuvent retenir?
Oui, nous voudrons inviter les camarades agents et pensionnaires de l'État, les enseignants et tous ceux qui émargent du budget de l'État à pouvoir comprendre que les barèmes tels que conclus, c'est un barème qu'ils doivent tous soutenir. Ils ne doivent pas oublier que lors de la mandature passé, on ne s'est pas préoccupé des agents et pensionnaires de l'État. Nous pensons que maintenant, il faudrait que nous fassions pression sur le gouvernement qui va arriver afin que ces barèmes, le deuxième palais des Mboudi amélioré, soient payés et que ça puisse nous permettre de bien faire le travail que l'État attend de nous et toute la population.
Merci. Emmanuel Kabongo, un mot pour terminer.
Merci. J'en ferai plutôt deux. Et le premier, c'est dire que tout le temps, le gouvernement congolais ont toujours dit qu'il n'y a pas d'argent et tout. il faudra que nous ayons un ministre des budgets réellement un grand financier qui sache trouver où l'argent. De deux, il faudra que tous les Congolais sachent que le Congo nous appartient, que nous avons une identité commune et que de cette identité, il émerge une responsabilité commune.
Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais est terminé pour ce soir. Merci de votre attention. Restez branchés sur la radio de la paix. Au revoir. Thank you.